Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien sûr Radio Judaïka. Nous sommes le jeudi 10 septembre 2026. Il est 18h. C'est l'heure de votre grand journal de la rédaction. Donald Trump menace de frapper le site iranien de Pikaxi Mountains alors que des mouvements ont été constatés près de ce site situé à côté du complexe nucléaire de Natanz en Iran. Un terroriste du Hamas qui avait envahi Israël lors de l'attaque du 7 octobre 2023 et qui avait participé à l'assassinat du colonel Jonathan Steinberg, commandant de la brigade Nahal, a été éliminé cette semaine. Le bras de fer entre Londres et Jérusalem s'intensifie. Selon de hauts responsables britanniques cités par la 12e chaîne israélienne, le Royaume-Uni envisage des sanctions contre les banques israéliennes. Et puis enfin en Belgique, un cabinet restreint du gouvernement fédéral se tiendra demain à 9h30 avec sur la table l'accueil d'étudiants et de chercheurs issus de la bande de Gaza ou encore le dossier de la privatisation partielle de la banque Belfus. Donald Trump menace de frapper le site iranien de Pikaxi Mountain alors que des mouvements ont été constatés près de ce site situé à côté du complexe nucléaire de Natanz. Nous constatons un peu d'activité à Pikaxi. Je conseillerais à l'Iran de ne pas jouer au plus malin car nous devons le frapper très durement. C'est ce qu'a déclaré Donald Trump qui avait déjà évoqué la semaine précédente la possibilité d'une opération militaire si Washington détectait des activités suspectes, réaffirmant que l'Iran ne serait pas autorisé à se doter de l'arme nucléaire. Ce site hautement fortifié n'a encore jamais été frappé. Sa profondeur et son niveau de fortification en font l'un des sites les plus difficiles à atteindre du programme nucléaire iranien. Des images satellites analysées par le Center for Strategic and International Studies montrent une accélération des travaux autour du complexe, renforcement des entrées, aménagement des routes et nouvelles activités de construction. Ces observations ne permettent toutefois pas d'établir que l'enrichissement d'uranium a déjà commencé à l'intérieur du site. L'Agence internationale de l'énergie atomique a déclaré à l'agence de presse Bloomberg avoir observé de son côté des activités de construction également à Pikaxi Mountain en Iran, un site que les services de renseignement occidentaux ont identifié comme susceptible d'être utilisé pour le stockage de matières nucléaires. Certains indices laissent supposer qu'il y a de l'activité autour de ce chantier, a déclaré le directeur général de l'AIEA, Raphaël Grossi. Nous ne disposons toutefois d'aucune information concrète concernant les activités qui pourraient s'y dérouler, a-t-il déclaré. L'agence de surveillance nucléaire de l'ONU n'a pas envoyé d'inspecteur à l'intérieur du complexe souterrain situé à Natanz, mais s'appuie sur des images prises à distance, selon Raphaël Grossi. Ils avaient déclaré à l'époque « Nous allons tout placer dans des tunnels à l'intérieur d'une montagne », rappelé Raphaël Grossi. Ce site devait être imperméable et protégé contre les attaques. C'est donc ce qu'on a pu lire des déclarations de Raphaël Grossi. Et puis toujours à propos de l'Iran, et des États-Unis, plusieurs conseillers du président américain Donald Trump, parmi lesquels J.D. Vance et Marco Rubio, craignent pourtant que la guerre avec l'Iran ne s'éternise jusqu'en 2029. Le vice-président J.D. Vance, le secrétaire d'État Marco Rubio et d'autres conseillers auraient évoqué cette hypothèse avec le président lors de discussions à la Maison-Blanche, selon le Wall Street Journal. Selon eux, Téhéran pourrait continuer à résister au blocus naval et à la pression militaire. Ces avertissements contrastent avec les déclarations publiques du président américain. En effet, cette guerre embarrasse le président américain, elle est impopulaire et a déjà coûté la vie à 18 militaires. Et le prix moyen de l'essence a atteint 4,22$ le gallon mercredi contre 3,19$ un an auparavant. Washington poursuit néanmoins sa campagne économique contre l'Iran avec blocus maritime et sanctions diverses en espérant que cela finira par faire céder à Téhéran. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a publié aujourd'hui une vidéo destinée à la communauté juive d'Iran à l'approche de la nouvelle année juive. L'an prochain à Téhéran, libéré de l'oppression et de la tyrannie, a-t-il déclaré, détournant la formule traditionnelle « l'an prochain à Jérusalem », prononcée lors de plusieurs fêtes juives. Israël Katz a ensuite adressé un avertissement aux dirigeants iraniens. « Toute attaque contre Israël, quelle qu'en soit la raison et d'où qu'elle provienne, entraînera une riposte puissante, notamment contre les principales installations énergétiques du pays. » Un terroriste du Hamas qui avait envahi Israël lors de l'attaque du 7 octobre 2023 et qui avait participé à l'assassinat du colonel Jonathan Steinberg, commandant de la brigade Nahal, a été éliminé cette semaine lors d'une frappe aérienne dans la bande de Gaza. C'est l'armée qui l'a annoncé. Selon Tzahal, la frappe menée lundi à Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza a donc coûté la vie à Ismail Ibrahim Darwish Kandil, membre de la force Nourba, l'unité d'élite du Hamas. Et puis cette frappe, elle a visé un bâtiment bâtiment hein, situé près de la ligne jaune dans la région de Beit Lahia qui avait été utilisé par le passé par des terroristes. Avant de mener cette frappe dans la nuit, l'armée israélienne a précisé avoir lancé un avertissement afin de permettre aux civils d'évacuer le bâtiment. Ce n'est qu'après avoir lancé cet avertissement que la frappe a été menée, tandis que des mesures supplémentaires ont été prises pour réduire le risque de blesser des civils non impliqués, notamment l'utilisation de munitions de précision et la surveillance aérienne, a indiqué l'armée. Des médiateurs impliqués dans les discussions entre Israël et le Hamas avant le 7 octobre avaient averti qu'en l'absence d'avancée sur un accord concernant les otages israéliens détenus à Gaza, le mouvement terroriste pourrait chercher à mener une opération d'enlèvement de grande ampleur. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le colonel de réserve Doron Hadar, ancien commandant de l'unité de négociation de l'état-major de Tsahal, dans une interview accordée à la radio publique Kan Rechet Bet. Selon Doron Hadar, qui avait participé aux négociations sur les Israéliens retenus par le Hamas avant l'attaque du 7 octobre, l'idée circulait déjà à l'époque qu'une impasse prolongée pourrait pousser l'organisation terroriste à tenter une action susceptible de modifier radicalement le rapport de force. Nous avions compris qu'en l'absence d'accord sur les otages, le Hamas finirait par chercher un coup susceptible de changer la donne, a-t-il expliqué. Au fil des années, nous avons reçu des messages, notamment de la part de différents médiateurs, selon lesquels si aucun progrès n'était réalisé, Yahya Sinwar envisageait la possibilité de lancer une vaste opération d'enlèvement afin d'obtenir d'autres atouts, je cite. Ces déclarations interviennent alors que la polémique agite Israël autour d'un avertissement qui aurait été transmis à Benjamin Netanyahou par le président des Émirats Arabes Unis avant le 7 octobre, selon une récente publication du quotidien Haaretz. Joel Lyon, ancien ambassadeur d'Israël en Ukraine, en Moldavie et en Arménie, a présenté hier ses lettres de créance au ministère turc des Affaires étrangères à Ankara, c'est ce qu'a annoncé ce dernier. Joel Lyon sera donc le plus haut représentant diplomatique d'Israël en Turquie, où il occupera le poste de chargé d'affaires par intérim. Il remplace Irit Lilian, qui avait été nommée ambassadrice d'Israël à Ankara en 2022 et a pris sa retraite cet été. Elle était rentrée en Israël après le déclenchement de la guerre contre le Hamas à la suite de l'attaque du 7 octobre 2023 pour des raisons de sécurité. La Turquie avait ensuite rappelé son propre ambassadeur d'Israël. Le bras de fer entre Londres et Jérusalem s'intensifie. Selon de hauts responsables britanniques cités par la 12e chaîne israélienne, le Royaume-Uni envisage des sanctions contre les banques israéliennes qui contribuent au développement des implantations en Judée-Samarie. Une banque accordant des prêts immobiliers pour des logements situés au-delà de la ligne verte pourrait ainsi être visée. Des chaînes de distribution pourraient également être concernées. Londres envisage un régime de sanctions qualifié de sans précédent qui pourrait également toucher des entreprises et des particuliers fournissant des services liés à la construction, aux infrastructures, au financement et à l'immobilier en Judée-Samarie. La législation devrait entrer en vigueur dans un délai de 6 à 9 mois. Et puis le président américain Donald Trump va s'entretenir avec Israël justement au sujet des sanctions imposées par la Grande-Bretagne aux entreprises et personnalités de Judée-Samarie. Je vais parler à Israël, je vais leur parler, je vais écouter leur avis. Je comprends parfaitement ce qui se passe, mais je veux savoir pourquoi tout à coup cela s'est produit, a déclaré le chef d'État américain qui n'a pas précisé si les États-Unis s'opposaient à la décision prise par la Grande-Bretagne. L'Algérie a annoncé aujourd'hui qu'elle allait rompre ses relations diplomatiques avec les Émirats Arabes Unis après des années de tensions, Alger accusant Abu Dhabi d'ingérence dans les affaires nationales et régionales. L'Algérie a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec les Émirats Arabes Unis après avoir épuisé tous les moyens visant à préserver les relations bilatérales, c'est ce qu'annonce la télévision d'État algérienne. On revient en Belgique maintenant où un cabinet restreint du gouvernement fédéral va se tenir demain à 9h30. Un agenda chargé attend le Premier ministre Bart De Wever et les vice-premiers ministres avec entre autres l'accueil d'étudiants et de chercheurs issus de la bande de Gaza ou encore le dossier de la privatisation partielle de la banque Belfius. Le dossier des étudiants et chercheurs gazaouis fait l'objet de dissensions au sein de la majorité. Ils ont reçu une bourse d'une université belge mais sont dans l'impossibilité de quitter l'enclave et ne peuvent dès lors pas introduire une demande de visa au consulat de Jérusalem. La ministre de l'Asile et de la Migration, Annelien van Bosseut, craint en effet domino, car selon elle, ses étudiants pourraient faire venir d'autres Gazaouis par le biais du regroupement familial. Selon une source proche du dossier, le MR préférerait aussi que ses étudiants Gazaouis ne viennent pas en Belgique. Le dossier de la privation partielle de Belfius figure aussi à l'ordre du jour. Le budget européen pourrait aussi être abordé. La Commission européenne a mis sur la table une proposition de budget en hausse de 60% par rapport rapport à l'exercice précédent. La contribution belge augmenterait donc de 3,4 milliards d'euros par an, une perspective jugée intenable par Bart De Wever, mais aucune position officielle belge n'a encore été adoptée. Le militant juif anversois Moshe Friedman a assigné l'État belge en référé devant le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles afin de le contraindre à déclarer l'ambassadeur des États-Unis Bill White persona non grata. L'affaire sera examinée le 16 septembre selon des documents consultés par Belga. Moshe Friedman qui réclame au juge d'imposer cette mesure à l'État belge dans un délai de 3 jours au VAB sous peine d'une astreinte de 8000 euros par jour de retard. S'appuyant sur la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, il accuse l'ambassadeur américain d'ingérence dans les affaires intérieures belges et reproche aux autorités fédérales leur inaction. Le litige s'inscrit dans le cadre de l'instruction judiciaire en cours à Anvers sur la pratique des circoncisions rituelles dans laquelle Moshe Friedman est partie civile. Bill White a vivement critiqué cette procédure à plusieurs reprises, qualifiant publiquement Moshe Friedman d'imposteur et d'escroc. Et puis on termine toujours sur la Belgique. Trafic de migrants, trafic de stupéfiants, criminalité. La Belgique et le Royaume-Uni signent un accord de coopération inédit depuis le Brexit. Bernard Quintin, le ministre de l'Intérieur belge, était à Londres hier pour le signer. Parmi les conséquences très concrètes de cet accord, les policiers belges pourront désormais porter leurs armes à bord des trains Eurostar. Jusqu'à présent, la transmission de certaines informations aux autorités britanniques nécessitait l'autorisation d'un magistrat. Le nouvel accord doit permettre des échanges plus rapides. Le texte prévoit aussi le partage des données sur la reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation. La police belge pourra ainsi identifier plus facilement les véhicules soupçonnés de transporter de la drogue, des migrants ou du matériel nautique. C'est la fin de ces informations. Je vous retrouve demain à partir de 7h du matin dans la matinale en compagnie de Lise Benkemoun. Ce sera également le retour de l'info dans une matinale qui vous accompagnera jusqu'à 9h30 du matin et notamment entre 8h et 9h. On parlera spécialement des 25 ans des attentats du 11 septembre 2001. Donc soyez bien présents sur nos ondes. Passez une excellente soirée sur les ondes de Radio Judaïka. À demain. Bye bye.